Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois. Une émission dédiée au mouvement des Alcooliques Anonymes, une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règle d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leur problème d'alcool peuvent devenir membres. Basé sur les 12 étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile. Nous recevons donc aujourd'hui, comme à chaque semaine, un ou une invitée membre de cette fraternité qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Alors aujourd'hui, je vous présente Yann qui est membre de notre belle fraternité et puis qui va nous partager donc son expérience et son rétablissement. Alors Yann, à toi.
Bonjour, je m'appelle Yann, je suis un alcoolique. Ça me fait plaisir de partager pour vous aujourd'hui. C'est spécial pour moi. J'ai pas l'habitude de partager pour Zoom. J'ai déjà partagé en salle plusieurs fois, tout ça. Mais là, je trouve ça un peu, c'est différent. Je vais faire mon possible. Bon, allons-y par le commencement. Moi, je suis originaire de l'Outaouais. J'ai passé mon enfance, adolescence, puis une partie de ma vie jeune adulte dans l'Outaouais. Chez nous, on était 4 enfants. Moi, je suis le plus vieux, puis je suis aussi le mouton noir de la famille. Je suis le seul qui est devenu alcoolique. Mon père était alcoolique. Du côté de mon père, il y a beaucoup d'alcoolisme, mes cousins, oncles, etc. Puis, par contre, du côté de ma mère, non, il n'y en a pas. Ils boivent très peu et tout. Puis moi, ma relation avec l'alcool, mon père, j'ai eu une relation un peu difficile avec mon père. Mon père m'aimait beaucoup, mais il était très sévère aussi. Mon père était français, ce qui fait que l'alcool était présent. C'était pas un tabou dans la maison. Moi, j'ai pris mon premier verre d'alcool, c'était un petit verre de vin, quand j'avais 5 ans à peu près. Puis à ce moment-là, c'était de savoir comment boire mon petit verre de rouge pour aller avec le fromage, tu sais. Fait que l'alcool, c'était pas un tabou. Mon père, il buvait. Tu sais, moi, je me rappelle, enfant, j'étais son serveur quand j'avais 8-10 ans. Tu sais, il regardait la télévision. Yann va me chercher une bière. Yann va me chercher une bière. Tu sais, moi, ce que j'ai connu de mon père dans la maison, c'était une caisse de 24 à tous les deux jours qui rentrait dans la maison. Ce que j'ai connu de lui. Mon père est mort d'une cirrhose du foie. Il a connu le mouvement à peu près 4 ans avant moi. Il a fait 3 mois de mouvement. Puis il s'est pas identifié. En fait, il se trouvait pas si pire que ça. Parce que mon père a pas perdu sa job, il a pas perdu sa maison, il a pas perdu sa femme. Fait que quand il entendait les partages dans le mouvement, des fois il s'identifiait pas. Puis au bout de 3 mois, il se trouvait pas si pire que ça. Puis il a recommencé à boire. Sauf que ça l'a rattrapé. Mon père est mort en 2004 à l'âge de 72 ans. Puis les médecins, ils avaient dit, tu sais, même 5 ans avant sa mort, vous êtes mieux d'arrêter de boire. Si vous n'arrêtez pas de boire, dans 5 ans, vous n'êtes plus de ce monde. Puis moi, j'ai compris ça à ce moment-là. Tu sais, je me dis, il reste à peu près ça, 5 ans à vivre. Puis effectivement, les médecins ont bien vu parce que c'est ça qui est arrivé aussi. À un moment donné, il est rentré à l'hôpital. Il a passé 3 mois à l'hôpital, puis il est mort de la cirrhose du foie. Moi, j'allais le voir 3 fois par semaine à l'hôpital à ce moment-là. Puis, moi, je suis dans le mouvement depuis longtemps. Il était content pour moi que j'avais arrêté de boire, tu sais, que je sois dans le mouvement. Il était heureux de ça. Mais un jour, il m'a dit, tu sais, peut-être 1 mois ou 2 avant sa mort à l'hôpital, il me dit ça, qu'il regrettait de ne pas avoir arrêté de boire. Puis là, moi, je me disais, quel bas-fond. Là, il est rendu à l'hôpital, c'est fini, son foie, il est fini, il n'a aucune chance de survie. Puis là, il se rend compte qu'il est passé à côté de sa vie. Pourquoi? Parce que pourtant, il a connu le mouvement, puis pourtant, tu sais, lui, dans sa tête, il était pas si pire que ça. Il était pas si pire que ça. Ça fait qu'il a continué à boire. Puis là, à la fin de sa vie, sur son lit de mort, il réalise qu'il aurait donc dû arrêter de boire. Puis moi, ben, tu sais, je trouvais ça dommage pour lui, mais moi, j'ai pas suivi le même chemin que lui. Moi, oui, j'ai fait la partie. J'ai commencé à boire, j'avais 13 ans à peu près. Moi, j'ai 63 ans, ça fait que c'était les années 70, là, tu sais. D'alcool, j'ai mélangé avec les drogues aussi. Puis pour moi, les années 70, quand j'étais ado, c'était un gros parti, là, tu sais, notre gang, on était toujours sur le parti. J'ai eu du fun, des bouts, tu sais, j'ai eu bien du fun à boire. Moi, je voulais jamais que le parti arrête, là, tu sais. Puis j'ai eu, comme les années 70, ça s'est passé comme ça, là. J'ai pris conscience que j'étais alcoolique, c'était, je pense, en 1980, puis c'est à travers un livre. Je buvais encore, puis le livre, je m'en rappelle, c'était « Le loup des steppes », le titre. Puis dans le livre, le personnage principal, c'est un alcoolique. Puis moi, lisant le livre, je me suis vu dans lui, tu sais, en partie ce que je me rappelle, mais j'ai pas aimé ce que j'ai vu, j'ai pas aimé ce que j'ai lu, tu sais, je me suis vu dans lui, mais surtout, je voulais pas arrêter de boire. Je voulais rien savoir, tu sais. Ça m'a fatigué, tu sais. J'ai lu le livre. Ça, c'est en 1980, à peu près un an plus tard, en 81, il y a un de mes meilleurs amis qui est rentré dans les AA. Puis là, il était venu chez moi, tu sais. Puis il m'a dit ça, il y a un de mes meilleurs amis, quelqu'un avec qui j'ai fait le parti, là, pendant une dizaine d'années. On a bu ensemble pendant au moins une dizaine d'années, là. On a eu du fun, tu sais, un fun noir ensemble. Puis là, il m'annonce ça, il me dit « Je suis rentré dans les alcooliques anonymes. » Moi, je dis « Quoi? Les alcooliques anonymes? C'est quoi ça? Les alcooliques qui boivent en cachette? » T'sais? Moi, je savais pas ce que c'était, quoi. J'avais jamais entendu parler de ça, alcoolique anonyme. T'sais? Bon, aujourd'hui, alcoolique anonyme, c'est plus connu, là, t'sais, les relations publiques, même les gens qui sont pas dans le mouvement. Tu sais, la plupart du monde savent ce que ça veut dire, mais moi, j'avais jamais, en 81, j'étais moins connu aussi, je pense, tu sais. Puis là, il me dit ça, tu sais, je suis rentré dans un A, puis je dis non, c'est des alcooliques qui boivent pas, et je bois plus, j'ai arrêté de boire. Ah, ouais? Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive avec toi? T'es rendu plat, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, il m'a dit, non, c'est ça, puis c'est resté comme ça. Puis, à peu près un an plus tard, il y a ma blonde, avec qui je vis à ce moment-là, qui, elle, rentre dans les AA. Elle dit, ah, non, elle aussi, tu sais. Moi, je continuais à boire, puis des fois, ils étaient les deux chez nous dans le salon, puis ils se parlaient entre eux, tu sais. Moi, je suis juste assis là, puis j'écoute, tu sais. Mais moi, je veux pas arrêter de boire. Je veux boire. Je veux avoir du fun, tu sais. Puis, j'ai fait, quand j'ai fait mon tout premier meeting, là, c'était à ce moment-là, je pense, en 82, en fait, c'était le groupe des jeunes à Ottawa à l'époque. C'est ma blonde. J'étais allé pour faire plaisir à ma blonde. Elle m'a emmené là. Et moi, j'ai pas aimé ça. Mon tout premier meeting, là, j'ai rien aimé. J'ai trouvé ça quétaine. Ah, super quétaine. Puis j'ai regardé le monde dans la salle. C'était des jeunes. Pourtant, c'était le groupe des jeunes aussi, hein. J'ai regardé les jeunes. J'ai regardé la gang qui était là. Si je pense, j'aurais même pas bu avec eux autres, tu sais. Parce qu'on boit, on a soif, on veut boire, mais on boit pas avec n'importe qui non plus, tu sais. Il y a aussi ça, tu sais, moi, dans un bar, tu sais, si mes chums sont pas là, ma gang n'est pas là, j'ai pas avoir soif, mais je regarde le monde, je vais pas nécessairement m'asseoir à leur table, là, non, je vais m'asseoir au bar tout seul, puis je vais boire ma bière, tu sais, on boit pas avec n'importe qui. Puis, on a pas avoir soif, là, mais ça fait pas tout, là. Mais c'est ça, puis j'ai pas aimé, puis à la fin, ça avait fini que le Notre Père, puis là, je me dis, ah oh, non, je le savais, un mouvement chrétien, aïe, aïe, c'est ça l'affaire. Puis bon, c'est resté comme ça, pas tellement longtemps plus tard, ma blonde m'a été patiente avec moi, en fait, peut-être un an plus tard, un an et demi, je me rappelle plus, là. À cette année, parce qu'elle a vu que je changeais pas, parce que moi, j'ai continué à boire, tu sais. On a continué à vivre ensemble, mais moi, je rentrais le soir à 5h du matin. À un moment donné, à cette année, puis elle est partie. Elle est déménagée à Montréal, à ce moment-là. Puis, moi, tu sais, à ce moment-là, je savais que en les écoutant parler, je savais un peu comment que ça marchait. Alors, c'est sûr, si tu m'avais dit, ah, tu sais, j'aurais aimé ça prendre un break à l'époque. Tu sais, arrêter une couple de mois, arrêter de boire pour une couple de mois, me remettre en forme, manger comme il faut. Oui, ça m'aurait fait du bien, tu sais. Mais moi, j'avais entendu dire par eux que quand tu connais, quand tu rentres dans AA, après ça, tu peux plus retourner boire, ça ne boit plus pareil. Puis là, je dis, oh, yeah, et ça m'avait fait peur. Oui, j'aurais arrêté pendant 3 mois, prendre un break, m'arrêter de boire pour toujours. Et non, il n'y en était pas question. Puis plus tard, ma blonde était partie, mais à un moment donné, elle m'a fait un cadeau, elle m'a envoyé le gros livre par la poste. Moi, à ce moment-là, j'habite à Hull, puis elle m'a envoyé le gros livre par la poste. Puis moi, des soirs, des fois, tu sais, je lisais une page. Puis en fait, avant d'arriver au mouvement, j'avais lu à peu près la moitié du gros livre avant de faire mon premier meeting par moi-même. Puis moi, je me suis identifié, c'est avec l'histoire de Bill. En lisant là, ses idées de grandeur, là, je me suis vu dans lui. J'ai continué à boire pendant un certain temps comme ça. Puis à un moment donné, ça ne marchait plus. Là, j'avais, tu sais, je faisais juste ça, boire, problème de santé. À la fin, j'avais du sang d'estomac. Je vomissais du sang. J'ai fait ça pendant les 5 dernières années à peu près. Puis jusqu'à un moment donné, je continuais.
Ah, merci, Yann. Là, Yann vient de nous expliquer comment sa relation avec l'alcool a commencé, l'histoire de son père qui en est mort d'une cirrhose du foie. Et en plus, il nous explique tous les préjugés qu'il a pu avoir envers Alcoolique Anonyme, là, parce qu'il y a eu plusieurs façons dont il a entendu parler de notre fraternité. Puis là, son premier contact avec le gros livre. Alors maintenant, on va passer tout de suite à une pause.
Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré de « Réflexions de Bill » et nous sommes à la page 173. Donc, je débute « Les racines de la réalité ». Nous avons donc commencé par un inventaire personnel. C'était la 4e étape. Une entreprise dont on ne fait pas l'inventaire régulièrement est vouée à la faillite. Dresser un inventaire commercial consiste à recueillir des faits et à les examiner. On essaie de bien connaître les marchandises en stock. Un des buts de l'opération est de déterminer quelles sont les marchandises endommagées ou impropres à la vente, puis de s'en débarrasser rapidement et sans regret. Si un chef d'entreprise veut réussir, il ne doit pas se leurrer sur la valeur de son actif. C'est précisément ce que nous avons fait avec notre vie. Nous avons réuni les faits honnêtement. Et oui, nous serons de retour avec Yann, qui a déjà commencé à nous partager une partie de son parcours avec les Alcooliques Anonymes. En fait, son premier meeting. Il nous a dit qu'il avait commencé à lire déjà le gros livre. Donc, il en avait comme une première moitié de lu. Et puis là, bon, on va faire la rencontre de la suite de son histoire tout de suite. Alors, vas-y, Yann, s'il te plaît.
Oui. Moi, au mois de juin 1985, à ce moment-là, je suis dans mon profond. Puis je me rappelle d'avoir dit à tout le monde dans le vieux hall, en fait, dans les bars, là où je me tenais, que là, j'allais boire qu'à la fin de l'été, je déménageais à Montréal et que j'allais arrêter de boire. Bon, le monde me connaissait dans le lieu-là, là, tu sais, puis là, personne m'a cru, évidemment. Le monde me disait, Yann, t'es pas capable de rester straight ici à Hull, à Montréal, penses-tu que tu vas être capable? Il y a encore, tu sais, bien plus de bars, bien plus d'actions ici à Hull et tout. Sauf que moi, j'étais décidé, tu sais, j'avais pris, puis tout l'été 85, oui, j'étais sur la gauche tout l'été, mais j'étais, ma décision était prise, puis c'est ce que j'ai fait. J'étais descendu au mois d'août avec un ami pour louer un appartement, puis le mois de septembre, pour une journée. Puis, au mois de septembre, je suis déménagé à Montréal, puis là, je suis rentré dans le mouvement. Oh, avant ça, il faut que je mentionne, moi, j'ai eu un événement particulier à peu près un mois avant que j'arrive dans le mouvement, qui était, je pense, parce que mon réveil spirituel, je pourrais dire, moi, je me rappelle un dimanche soir, j'avais appelé mon ex-blonde qui était rendue à Montréal, et là, je lui annonce, je dis, je suis un alcoolique et j'ai besoin d'aide. Puis pour moi, c'était la première fois que j'admettais un autre être humain que j'étais un alcoolique et c'était la première fois que je demandais de l'aide. Puis elle, elle m'avait juste dit, « Ben là, regarde, moi, je suis à Montréal maintenant, je peux pas faire grand-chose pour toi. Appelle à Hull, puis eux, ils vont te dire où aller, tu sais. » Puis bon, ça reste de même. Je dis, « OK, je raccroche. J'ai pas appelé à Hull. » C'est un dimanche soir, je me rappelle, en début de soirée, là, vers 7 heures, puis le soir d'avant, ben j'avais été faire une boîte toute la nuit, puis j'avais emprunté de l'argent à un ami, puis j'avais dit, ben passe-moi ça, j'ai de l'argent chez nous, demain soir, je vais passer chez vous, puis je vais te payer. Fait que là, je m'en vais au coin de chez moi, à l'arrêt d'autobus, puis là, j'attends l'autobus. Quelques minutes plus tard, à l'arrêt d'autobus, il y a un homme et une femme qui arrivent, ils sont là à côté de moi, tantôt, ils se parlent, puis là, il y en a un qui dit, « Hey, c'est vrai, il y a chose qui prend son gâteau de 2 ans à soir. » Oui, oui, puis il y a aussi Joe, lui, qui prend un jeton de 6 mois. Moi, je suis là, j'entends ça à côté de moi, puis comme je sais comment que ça marche un peu, tu sais, je savais qu'il y avait des jetons, des gâteaux, puis là, je me dis, « Ça se peut pas, 2 membres AA. » Les 2 premières personnes que je rencontre, c'est 2 membres AA. Je demande de l'aide, puis l'aide est là, ça m'arrive sur un plateau d'argent. Les 2 premières personnes que je rencontre, c'est 2 membres. Mais je suis pas sûr à 100%. Puis j'ai mon orgueil, ça fait que je dis pas un mot. Tu sais, j'ose pas. Et dans le fond, moi-même, je le sais que c'est 2 membres. Mais je dis rien. Là, l'autobus arrive, on monte les 3 dans l'autobus et tout, l'autobus part. Puis là, ça promenade du portage, là, un feu rouge. Puis là, eux, moi, je suis assis plus en arrière, tu sais. Puis là, ils descendent. Puis ils s'en vont vers, je les vois aller, ils marchent, puis ils s'en vont vers le côté de l'église Saint-Bernard. Alors, là, je dis, ah, les meetings, c'est dans des sous-sols d'église, c'est souvent dans des sous-sols d'église, c'est 2 membres, c'est certain, ça se peut pas. Puis là, il est comme 8h15, tu sais, à peu près, tu sais. Puis là, l'autobus repart, là, je suis tout ému, les yeux pleins d'eau, ça se peut pas, comment ça se fait tout de suite quand je demande de l'aide, ça m'arrive comme ça. Ça reste le même, je m'en vais chez mon ami, il donne de l'argent, on passe à Rumba toute la nuit et tout, tu sais. Mais ça, cet événement-là, ça me chicote, tu sais. Ça, c'est à peu près un mois avant que j'arrive dans le mouvement. Mois de septembre, je déménage à Montréal, moi, ma date d'abstinence, c'est le 14 septembre. Puis arrive à Noël, juste avant Noël, à ce moment-là, j'ai 3 mois d'abstinence, tu sais. Puis je descends à Noël pour voir mes parents, là, ma famille, tout ça. Puis, en arrivant à Gatineau, c'était Hall, ma mère, aujourd'hui, elle dit Gatineau. Puis là, je vais faire un meeting à Hall, tu sais. J'étais arrivé en après-midi, puis je dis à mes parents, ben je vais aller faire un meeting ce soir, tu sais, puis je reviens plus tard. Parce que moi, je suis curieux de savoir s'il y a un meeting dans cette église-là, tu sais. Puis, en arrivant dans la salle de meeting à Hall, suite en rentrant dans la salle, avez-vous une liste de meetings? Je veux vérifier quelque chose. Puis là, je prends la liste meeting, puis je regarde. Oui, effectivement, le dimanche soir à 8h, du moins à ce moment-là, aujourd'hui, je ne sais pas, mais à cette époque-là, il y avait un meeting à 8h le dimanche soir à l'église Saint-Bernard à Hull. Ça, c'était ma confirmation que c'était 2 membres à Hull. Puis ça, cet événement-là, ça m'a beaucoup facilité la tâche après dans le mouvement. Tu sais, parce qu'après ça, moi, après coup, je me disais, il y a quelque chose en quelque part, je ne sais pas c'est quoi. Il y a une force, il y a une énergie quelconque. Je ne sais pas comment ça marche, mais il y a quelque chose qui marche. Puis j'arrive pas à l'expliquer, j'arrive pas à le définir, mais il y a quelque chose quand même qui est plus fort que moi. Bon, après ça, au mois de septembre, j'arrive dans le mouvement. Les premiers mois, j'ai trouvé ça difficile, oui, les deux premiers mois. En fait, je m'endormais pas le soir, j'étais trop nerveux. J'avais beau me coucher à 11h minuit, mais souvent, je m'endormais pas à 24h, 5h du matin. J'avais une job, fallait que j'aille travailler, dormir 3h, tu sais, c'était dur, la fatigue. Je trouvais ça pénible. Puis, après 2 mois d'abstinence, je suis allé faire une 5 semaines intensive. C'était à Oka. C'était sur les 3 premières étapes. C'était dans le monastère d'Oka. Puis, on était juste des hommes. On était 25 ou 30 à peu près. Puis, cette 5 semaines-là, c'était une des plus belles 5 semaines de ma vie. En fait, il y avait un animateur. Il expliquait les 3 premières étapes. Puis ensuite, ben, on partageait à tour de rôle. Moi, cette 5 semaines-là, j'ai beaucoup pleuré. Pas pleuré pour moi, pleuré pour ce que j'entendais. Tu sais, tout le monde allait en avant partager à tour de rôle. Puis là, oh, qu'est-ce qui est arrivé à lui, puis l'autre. Tu sais, je trouvais ça très émouvant. J'ai beaucoup pleuré, mais en même temps, ça m'a fait du bien. Tu sais, ça a sorti quand même beaucoup au niveau de l'émotion. Là, puis je suis sorti de cette 5 semaines-là, là, oh, je flottais. Flottait calme, très détendu là, pendant 2-3 semaines. Là. Puis c'est là qu'on m'a expliqué aussi à ce moment-là que c'était ça le pink cloud. Tu sais, moi, je savais pas trop ce que c'était. Mais on a dit oui, tu sais, qu'il y a juste un sentiment de bien-être. Mais bon, après ça, il est arrivé des choses, je suis redevenu impatient partout, des ressentiments, puis bon, tu sais. Je suis retourné pour un autre 5 semaines intensive. Au même endroit, à ce moment-là, j'avais 6 mois d'abstinence. C'était toujours sur les 3 premières étapes. C'était bien, tu sais, on a révisé les 3 premières étapes, puis mais en sortant de là, le feeling était un peu moins fort. T'sais. Par contre, ça m'a amené après ça, avoir vécu ça, là, je me suis dit, ben, je suis peut-être dû pour faire ma 4e étape. Puis je l'ai commencé pas longtemps plus tard, quelques mois plus tard à peu près. Moi, de la façon que je l'ai fait, c'était avec un petit groupe. On était 5 personnes. Il y avait un animateur. On se rencontrait une fois par semaine. Puis là, il nous donnait comme un devoir. T'sais, pour la semaine prochaine, là, écrivez sur votre enfance, ressentiment et tout. Moi, j'avais acheté un cahier. Puis là, ben, j'écrivais dans mon cahier pendant une semaine. Puis là, quand on se revoyait la semaine suivante, ben entre nous, on en discutait aussi, à savoir comment on se sentait là-dedans et tout. Puis ça, ce processus-là, ça a duré 5-6 semaines à peu près. Moi, faire ma 4e étape, j'ai trouvé ça dur. Il y a des bouts, là, j'écrivais pas. Je me rappelle, des fois, j'avais mon cahier devant moi, là, puis j'avais les poings serrés, assis, là, devant ma table. Puis je pouvais être pendant 1 heure de temps, là, facilement, là, à rien écrire. Parce que là, je pensais au monde, tu sais, ça m'a fait vivre beaucoup de ressentiments. Tu sais, aurait un tel, tu sais, telle personne qui me doit de l'argent, un autre qui m'a fait ci, telle autre affaire, un autre qui, tu sais. Ça te revit plein d'émotions, puis oui, je les ai écrits, puis bon, ça a fait. Par contre, ma 5e étape, ça, j'ai bien aimé ça. La personne avec qui j'ai décidé de faire ma 5e étape, à ce moment-là, on est au début de l'été, au fin mai, début juin à peu près. Puis c'est une des premières belles journées de l'année, là, une journée beau soleil, 28 degrés. Puis là, le matin, on est tôt le matin, puis elle me dit, ben, regarde, pourquoi on n'en profite pas pour sortir de la ville, tu sais? On va aller à campagne, puis en profiter. Je dis, ben oui, pourquoi pas? Fait que là, on a pris la 20 ouest, puis on a arrêté dans le coin de l'île Perrot, dans ce coin-là. Puis là, stationné là, puis là, sur le lac des Deux-Montagnes, puis il louait des chaloupes. J'ai loué une chaloupe, ramé un petit peu, puis on est accosté sur une île, parce que sur le lac des Deux-Montagnes, dans ce coin-là, il y a plusieurs petites îles. Puis là, on a arrêté là, on a passé la journée là pendant 5-6 heures, puis là, à ce moment-là, ben j'ai commencé à lire mon cahier, ma 5e étape. Puis la personne a juste écouté ce que j'avais à dire, puis des fois, une petite question, puis ça, c'est...
Wow, merci, Anne. Un beau parcours, là, dans les débuts des Alcooliques Anonymes avec l'éveil spirituel, les membres AA à l'Église Saint-Bernard, c'est quand même incroyable, là, cette histoire, une belle histoire. Puis en plus, ben là, on est rendu à la 4e et 5e étape. Fait que, on va s'arrêter maintenant pour une autre pause. Merci.
Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet Un jour à la fois, trait-d'union-émission.org, te donnera accès à nos tout nouveaux podcasts contenant toutes les émissions de l'année, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2007 à aujourd'hui, pour écoute sur tous appareils intelligents. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toutes questions ou commentaires et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager ton histoire personnelle de rétablissement. On va poursuivre avec Yann. Yann était en train de nous expliquer sa quatrième étape et puis ensuite là il avait commencé la cinquième et puis il nous expliquait comment ça se passait pour lui à ce moment-là de son rétablissement. Alors vas-y Yann, c'est à ton tour.
Ouais, ben, pendant ma cinquième étape, j'ai beaucoup parlé. J'avais mon cahier, j'ai lu ce que j'avais écrit dans mon cahier. Puis j'ai beaucoup parlé, puis la personne avec qui je l'ai fait a juste écouté. Puis ça a été ça, mais à un moment donné, j'avais plus rien à dire. C'est comme si j'avais fait le tour là, de ce que je voulais sortir. Puis là, j'ai mon cahier, c'était fini. On était toujours dans là sur la petite île. Puis là, qu'est-ce que je fais avec mon cahier? Je le garde-tu? Je le garde pas? Finalement, je dis non, je le garde pas. Puis là, je l'ai mis en feu. Elle était fumeuse, moi je suis non-fumeur, puis elle l'a allumé. Puis là, il est parti en feu, il a brûlé, puis là, il y a eu un coup de vent, puis les armes sont parties au vent. Parce que moi, j'avais pas envie de le garder, puis je dis non, je tourne la page, là, je m'en vais en avant, puis je continue. Puis ma cinquième étape, ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, je me sentais plus léger après. Puis après coup, je me suis rendu compte aussi, il y a des choses, des fois, que je me sentais coupable. Puis dans le fond, c'était pas grand-chose. Des fois, il y a eu des petites affaires, puis moi, je me culpabilisais avec ça. Puis dans le fond, c'était pas si grave que ça. Il y a plein de monde qui ont fait ça, puis bien du monde. Tu sais, ça m'a soulagé, puis ça m'a, aidé à ne pas me sentir coupable, des fois, pour rien aussi. Puis bon, après, moi, j'avais des dettes. Tu sais, j'ai eu des amendes honorables. J'en ai fait une bonne partie. Il y a du monde, parce que moi, j'étais à Montréal, même au niveau des dettes, il y avait des dettes personnelles. Une personne, entre autres, tu sais, qui vivait à Roll. Puis là, il y a du monde avec qui je voulais pas vraiment revoir non plus, qui était du monde de bord avec qui j'ai bu, mais il y en a à qui je devais de l'argent là-dedans. Puis il y en a à qui j'ai juste téléphoné, je les ai appelés, garde, j'ai ton argent, je vais t'envoyer un chèque par la poste, c'est quoi ton adresse, ton code postal? Puis c'est ce que j'ai fait. D'une part, ça m'a évité de retourner les voir et tout. Puis j'ai envoyé une petite lettre, un petit mot, tu sais, en m'excusant avec le chèque par la poste. Puis le chèque a été encaissé. Je l'ai vu après. Fait que, tu sais, moi, c'est payer mes dettes comme ça. Il y a eu une personne à qui je devais plus d'argent, à qui je devais 5 000 $. Ben moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, parce que lui, il était venu me voir à Montréal, là, il voulait que je le paye, tu sais. Il mettait de la pression puis il faisait des menaces là-dessus. Fait que moi, ce que j'ai fait un prêt personnel à la banque. J'ai raconté une histoire pour acheter des meubles. En fait, il y a quelqu'un qui m'a endossé parce que mon crédit à la banque à ce moment-là, c'était zéro, là. Dans mon bas fond, j'ai fait des chèques pas de fonds puis bon. Puis j'ai eu l'argent de la banque puis là, je l'ai payé. Après ça, c'était fini. Puis après ça, j'ai payé mon prêt personnel tranquillement. C'était sur 3 ans, je pense. Fait que là, j'avais pas de stress, là, tu sais. J'avais juste mon petit paiement mensuel à faire. Puis ça s'est fait tranquillement comme ça. Des autres dettes, ben j'ai pris des arrangements avec mes créanciers. Il y en avait plein, là, Visa, Bell, Hydro-Québec, etc. Mon ancien propriétaire à qui je devais, je pense, c'était 3 mois de loyer. Mais finalement, j'ai payé tout le monde. Ça m'a pris 3 ans à peu près, là, mais j'ai payé tout le monde tranquillement. Sinon, il y avait une amende en arabe que j'aurais voulu faire à l'époque avec mon ancienne blonde, mais on m'a fortement recommandé de ne pas le faire. Parce qu'elle, entre-temps, qui était une membre, elle avait refait sa vie avec un autre homme et tout, vivait ensemble. Puis là, ben, on m'a dit non, retourne pas là-dedans, mêle-toi pas de ça, laisse ça aller, puis tu sais, plus tard. Puis finalement, je l'ai pas fait. Mais il y a à peu près 10 ans, parce que moi j'ai 35 ans d'abstinence, il y a une dizaine d'années, c'est elle qui m'a appelé pour me faire une amende honorable. Puis là, on s'est parlé au téléphone tous les deux, parce qu'à un moment donné, j'ai oublié, tu sais, dans les premières années, j'y pensais dans le mouvement, mais à un moment donné, après 10-15 ans, ben tu sais, j'étais rendu ailleurs, j'y pensais plus. Et elle m'a appelé, puis là, j'étais content qu'on se parle aussi. On s'est parlé pendant peut-être 1 heure au téléphone, là. On s'est fait des amendes honorables mutuellement, tu sais. Ben, c'était pas correct, tu sais, parce qu'on je la vois pas beaucoup, tu sais. C'est rare qu'on se voit, on se voit très peu, mais on est en bon terme depuis longtemps. Moi, j'ai été impliqué dans les services dès mes débuts dans le mouvement. Puis en arrivant au mouvement, comme je connaissais personne, je connaissais pas grand monde à Montréal non plus. Fait que là, on m'a dit, ben garde, fais l'accueil dans un groupe, tu sais. Puis j'ai un groupe, j'ai fait l'accueil pendant 2 mois. D'une part, ben moi, de serrer la main à tout le monde qui arrivait, tu sais, eux, ça les a permis de me connaître, tu sais. Un nouveau, c'est lui, Yann. Ben, je me présentais à tout le monde pendant 2 mois. Puis moi, eux, ils se présentaient aussi à moi. Ça fait que ça m'a permis de connaître, tu sais, pas mal de monde assez vite, tu sais, dans le mouvement. Puis je voulais avoir ça, me se faire des amis dans le mouvement. Par la suite, j'ai été impliqué dans les années 80, il y avait un comité, on a décidé de partir à un congrès des jeunes à Montréal. Puis moi, j'ai été impliqué dans le congrès des jeunes. En tout, là, peut-être pendant 10 d'années, tu sais, j'ai eu plusieurs jobs dans ce comité de service-là. J'ai eu beaucoup de fun à faire ça. On organisait un congrès, on organisait des danses, puis j'ai eu plein de fun avec ça. J'ai aussi eu le privilège de servir sur le congrès international des jeunes qui a eu lieu à Montréal en 1990. C'était la fin de semaine de Pâques. C'était à l'hôtel Lorraine-Élisabeth. Moi, j'étais responsable de l'enregistrement, pré-enregistrement. Puis on avait l'hôtel Lorraine-Élisabeth à nous au complet pendant 4 jours. Juste des membres, toutes les chambres. On était 4400, il y avait du monde de partout, tu sais, des Américains, plein de monde. J'ai quasiment pas dormi pendant 4 jours, mais j'ai trippé. C'est une de mes plus belles fins de semaine de ma vie. La danse, tu sais, il y avait eu un décompte de sobriété. Le monde t'a rendu debout sur la table, sur les tables, dans la salle de banquet. C'était complètement malade, c'était flyé, tu sais. Puis je m'étais fait des amis aussi, moi et ma blonde aussi, à Los Angeles. Puis l'année d'après, on avait été passer nos vacances en Californie, tu sais. Puis on avait été chez eux. C'était cool parce que ça permet de faire des liens aussi dans A. Puis oui, sinon, après ça, dans les services, j'ai eu d'autres jobs dans mon groupe, tu sais, à Roger, j'étais parent de groupe, toutes sortes de jobs, la littérature, etc. Moi, les services, ça m'a aidé. Parce que je pense, pour moi, le sentiment d'appartenance au AA est quelque chose d'important. Puis quand je suis impliqué dans les services, c'est que mon sentiment d'appartenance est plus fort. T'sais? Quand je suis impliqué, j'ai vraiment le sentiment d'être un maillon de la chaîne AA. Puis je pense aussi que plus mon sentiment d'appartenance au AA est fort, plus je suis loin de mon premier verre. À l'inverse, quand je suis pas impliqué, parce qu'il y a eu des bouts, je suis pas impliqué. Oui, tu sais, quand mon sentiment d'appartenance, je suis comme, tu peux être plus fragile si t'es pas impliqué, fais moins de meetings, moins en contact avec d'autres membres. Ça veut pas dire que tu vas retourner boire, mais je suis comme plus fragile, tu sais, un peu plus fragile. Puis des fois, les gens, ce que j'entends, moi, j'ai été chanceux, j'ai pas connu la rechute. Mais pour ceux qui l'ont connu, souvent, ça revient petit à petit, ils s'éloignent du mouvement, ils s'inquiètent pas, ils font moins de meetings, parlent moins à des membres, voient moins de monde, puis tranquillement, ils s'éloignent du mouvement. À un moment donné, c'est comme s'ils oublient, tu sais, ils oublient le mouvement, ils oublient pourquoi ils ont arrêté de boire, tu sais. Chose faut jamais oublier, c'est pourquoi on a arrêté de boire, tu sais, c'est sûr, ça, c'est hyper important, tu sais. moi, d'arrêter de boire parce que l'alcool m'a mis dans la merde, tu sais. Ça m'a causé beaucoup de problèmes. C'est pour ça que j'ai arrêté et je veux plus retourner là-dedans, tu sais. J'ai fait beaucoup d'amis, tu sais, dans le mouvement. J'ai voyagé, j'ai fait des meetings aux États-Unis. J'en ai fait à Boston, à New York, à Los Angeles. Puis ce qu'il y a bien que les meetings ont, comme c'est un gros mouvement, ils ont, moi, je me sens à l'aise dans une salle de meeting. Tu sais, je me sens chez moi. Là, je pense à un événement, entre autres, c'était au Mexique, à Mexico, il y a à peu près, dans quelle année, là? 2007, je pense. À Mexico, là, j'appelle parce que je parle espagnol aussi. Fait que j'appelle AA là-bas, je dis « Bon, je vais aller faire un meeting, est-ce qu'il y a un meeting pas loin et tout? » Je dis « Ah oui, il y en avait un justement, pas loin de là. » Puis j'arrive au meeting, on m'accueille, comme ici, on m'offre un café. Je dis « Ah ouais, c'est comme à Montréal. » Là, je m'assois dans la salle, puis là, je vois les slogans sur les murs, tu sais. Ils sont écrits en noir, rouge, sur un fond blanc, avec le même lettrage. T'sais, mais en espagnol, je dis, ah, ben, c'est comme à Montréal, tu sais, c'est même pareil. Je regardais les gens dans la salle, je dis, ben, ouais, c'est une gang d'alcooliques, ils ont l'air des alcooliques, là, tu sais. Mais je me sentais chez moi, tu sais, je suis juste avant que le meeting commence, je suis assis sur une chaise, puis je regarde autour de moi, je me sentais en sécurité, je me sentais chez moi, puis j'étais à Mexico, tu sais, à côté du centre-ville, à Mexico. C'était super chaleureux parce qu'après le meeting, bon, je parle espagnol, mais j'ai un accent français quand même. Je fais tout ça avec mon accent. Les gens me demandaient d'où je venais, tu sais, de Montréal. Hein, Montréal, tu sais. Là, eux autres, ils tripaient. Comment ça se fait? Tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Ben non, je suis en vacances, puis je passe par là. Puis après, eux, un groupe, ils allaient faire un after meeting. Il y a une gang qui s'en allait au restaurant. Puis là, il y a un homme qui me parlait. Puis, ben, je vais vous raconter la suite après.
Hey, merci encore. Et comment on répare nos torts? Comment réparer? Payer ses dettes. Yann, il a fait beaucoup de choses pour réparer ses torts. Puis aussi, son implication. Là, il est rendu qu'il nous parle de tout ça. L'implication dans l'Alcoolique Anonyme. Comment c'est important, le sentiment d'appartenance. Alors, on va continuer tantôt. Maintenant, on va passer tout de suite à la pause.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire,
j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si tu souhaites en apprendre davantage sur le mouvement AA, tu consultes le site internet aa-québec.org où tu trouveras, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de ta région, si tu ressens le besoin de parler, la liste des réunions près de chez toi et une foule de réponses sur la structure de ce grand organisme. Alors, nous poursuivons avec le partage de Yann qui est rendu au Mexique et qui nous explique là, que même au Mexique, le sentiment d'appartenance et la sécurité qu'il puisse ressentir là, dans un meeting, c'est toujours présent. Alors, voici Yann qui continue son histoire.
Oui, c'est qu'après le meeting à Mexico, il y a un homme qui m'a parlé pendant à peu près une dizaine de minutes. Puis là, il y a une gang, ils sont partis au restaurant. On est dans la salle de meeting, on a continué à parler un peu. Puis là, on est allé les rejoindre au restaurant. Puis en arrivant au restaurant, là, il y avait une grande table. Là, il était à peu près une quinzaine. Et à la table, dans plein milieu de la table, il y avait une chaise de libre. Pour qui la chaise de libre? Ben, pour moi, l'invité d'honneur, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça super cool. Je me sentais comme un roi, tu sais. J'étais arrivé là-bas, puis là, je voulais, tout le monde voulait me parler. Puis c'était super chaleureux, tu sais. Puis entendre les histoires des gens là-bas, ben, c'est la même chose qu'ici, hein. C'est les mêmes histoires que j'entends à Montréal. Tu sais, l'alcoolisme, la maladie est la même partout. Puis les histoires de brosse, que tu sois à Mexico ou à Montréal, c'est pareil. Là, tu sais, j'ai des amis à Los Angeles, c'est la même chose. Tu sais, on entend les mêmes histoires, puis c'est là qu'on voit qu'on a quand même beaucoup de points communs entre alcooliques. Puis, tu sais, pour moi, dans A, oui, il y a le programme, les 12 étapes, c'est important pour se rétablir, mais il y a aussi un côté social qui est important. Par les meetings aujourd'hui, parce que mes amis, presque tous mes amis sont dans, tu sais, j'ai une vie sociale à travers AA. En faisant des meetings, ça me donne une vie sociale, tu sais, de voir du monde, de jaser du monde, de pouvoir parler, tu sais, des fois dans un congrès, je me mets à parler avec quelqu'un que je connais pas, puis ça prend 2 minutes qu'on est rendu dans un sujet très profond que je peux, tu sais, je peux pas faire ça avec n'importe qui, là, tu sais, même ailleurs au gym ou avec quelqu'un, tu sais, pas le jazz au gym, ben pas ces temps-ci, là, à cause de la pandémie, mais sinon j'y vais un peu quand même, mais tu sais, il y a du monde qui sont sympathiques avec qui je jase, puis quand on se croise, bon, je jase un peu, tu sais, parce qu'on s'entraîne dans le même gym depuis plusieurs années. Mais, tu sais, les sujets, tu sais, c'est pas, ça va pas en profondeur comme ça peut aller dans AA, tu sais. Moi, aujourd'hui, ce qui compte pour moi, c'est d'être heureux, tu sais. Puis heureux, c'est beaucoup une façon de voir les choses. Tu sais, sans, j'ai plus besoin des bébelles à l'extérieur de moi comme j'avais autrefois. Puis quand je dis une façon de voir les choses, mettons, par exemple, je pourrais prendre une feuille, tous les matins, écrire sur ma feuille ce que j'ai pas. J'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas cela, j'ai pas ci. Je peux remplir une page facilement. Après ça, si je lis ma feuille tous les matins en me levant, 2 semaines plus tard, je suis déprimé. C'est ça, je suis déprimé. Il va me manquer tellement d'affaires. Comment je vais faire pour vivre? Ça n'a pas de bon sens. Mais je peux aussi faire le contraire. Je peux prendre une feuille le matin et écrire j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ci, j'ai ça, et le matin, je relis ma feuille, tous les matins, 2 semaines après, je suis heureux. C'est quoi la différence entre les deux? Ça n'a rien à voir avec ce qui est extérieur à moi, c'est moi, ma perception des choses. Puis je pense que pour être heureux, il faut mettre un peu plus l'emphase sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on n'a pas. Si je mets l'emphase sur ce que j'ai pas, c'est sûr, je vais être malheureux. Mais je peux regarder d'un autre angle, je peux regarder un peu plus ce que j'ai. J'ai la santé, j'ai un appartement, j'ai un job. Tu sais, je peux en mettre des choses. Puis quand je pense comme ça, je vais bien, je suis heureux, je suis détendu. Tu sais, j'ai moins d'attentes. Tu sais, quand j'étais plus jeune, en arrivant dans mes premières années dans le mouvement, j'avais beaucoup d'attentes. J'avais un gros égo, c'est sûr. Puis avec au fil des années, ben, mon égo a diminué un peu. Je dirais pas que très humble, mais je suis plus humble que je l'étais autrefois, ça c'est sûr. Puis il y a plein d'avantages à être ça, on sait être plus humble, parce qu'on a moins de problèmes. Quelqu'un qui a un gros ego, tu peux pas avoir un gros ego et être heureux en même temps. Parce que quand tu as un gros ego, tu as beaucoup de désirs, tu as beaucoup d'attentes, puis forcément, tu vas avoir des frustrations, tu vas être déçu. Fait que tu seras pas, tu peux pas être vraiment heureux avec un gros ego, ça marche pas. Puis être plus humble, c'est avoir moins d'attentes. T'as moins d'attentes, ça veut dire moins de déception. Moins de déception, ben plus de bonheur. Tu sais, t'es plus relax. Aujourd'hui, je mène une vie quand même assez tranquille, tu sais. Puis ça va, tu sais, même là, en temps de pandémie, c'est sûr, je suis plus seul, je vois moins de monde, là. Depuis, il y a des meetings sur Zoom, mais je suis quand même plus seul qu'avant. Mais ça va, je fais avec, là, tu sais, je tripe sur des petites affaires. Là, c'est l'hiver, des fois, il neige un peu, puis je regarde la neige tomber par la fenêtre du salon, puis c'est correct, là, c'est beau, tu sais, ça va. Moi, j'aime bien le printemps au mois de mai quand les feuilles sortent d'un arbre, tu sais. La deuxième semaine de mai, à peu près, puis là, tu vois les feuilles qui commencent à sortir, puis ça arrive assez vite, hein, en l'espace d'une semaine ou deux. Puis là, les feuilles sont vertes, vertes, tu sais, en vert clair, je trouve ça tellement beau. Mais ça, c'est des choses que je voyais pas avant quand je buvais. Je remarquais pas qu'il y a des feuilles sortaient. À un moment donné, je réalisais, ah oui, il y a des feuilles dans les arbres, tu sais, mais je le voyais pas. C'est des petits détails. Mais aujourd'hui, c'est des petites choses comme ça qui me font triper. Tu sais, c'est pas, en fait, j'ai besoin de beaucoup moins de choses qu'avant, puis tant mieux, ma vie se simplifie avec le temps. Il y a la prière, la méditation qui est importante pour moi. Je médite de temps en temps. Tu sais, ça me relaxe. Quand je médite, ça me calme. Parce que des fois, il y a des scénarios qui partent dans ma tête, ça part, ça flaire, ça va dans tous les sens. Puis le fait de méditer, ça me calme. Tu sais, je me vois aller quand je médite. Tu sais, il y a Yann, puis là, souvent, je vois, c'est la même cassette, là. Putain, les mêmes affaires qui reviennent. Puis là, j'arrive, tu sais, je regarde ça un peu, puis je suis capable de rire de moi-même, tu sais. Je dis, ben oui, Yann, avec ses vieilles idées, ses vieilles cassettes qui refont surface de temps en temps. Il y a des choses qui ont changé dans ma vie, mais il y en a d'autres qui n'ont pas changé non plus. Mais bon, c'est pas grave, tu sais. Avec AA, j'ai appris à m'accepter moi-même tel que je suis, tu sais. Puis c'est correct, tu sais, j'ai des forces, j'ai des faiblesses, j'ai des qualités, des défauts. C'est correct de même, c'est ça, un être humain. Je suis juste un être humain, puis, tu sais, j'ai pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, tu sais. Mais tout ça, le cheminement, oui, non, oui, il faut faire des efforts pour changer. Changer, c'est pas facile. Ça demande des efforts, puis oui, c'est dur, tu sais. Mais à un moment donné, c'est devenu plus facile. Puis j'ai beaucoup appris à m'accepter, à accepter la vie telle qu'elle est, à m'accepter moi tel que je suis. Puis les autres, mais quand ça fait pas mon affaire, s'il y en a qui m'énervent trop, ben je me tasse, c'est tout, là, tu sais. J'ai pas à me taper quoi que ce soit ou à essayer de le convaincre. Non, tu sais. Il veut gueuler, qu'il gueule, moi je m'en vais, il gueulera tout seul, c'est tout, là, tu sais. C'est pas plus simple, je me casse pas la tête avec ça. Je suis plus trop ben, je mène une vie simple qui est bien. La prière, moi quand je prie, c'est le soir avant de me coucher. Je prie pour le mouvement, je prie pour les autres, les gens de ma famille, mes amis, les gens que je connais. Puis je demande à Dieu de me guider là, pour l'aider à faire sa volonté. Là, c'est ça qui me guide. Mon équilibre à moi, là, c'est comme ça que je le trouve. Tu sais, c'est toujours, ou même quand dans des périodes de détresse, quand ça va mal, ce qui me ramène là, les pieds là, sur terre, mon équilibre, je le trouve, là, je m'arrête, puis mon Dieu, aidez-moi à faire votre volonté, quelle qu'elle soit. Là, je lâche prise dans ce temps-là. Puis les choses se placent le lendemain, le jour suivant, les choses se font assez naturellement. Mais moi, en tout cas, je m'en détache. Ça me permet au moins de me détacher des événements, tu sais. Ça change pas tout, mais moi, je m'en détache. Puis parce que je m'en détache, je l'accepte, ça se prend mieux. Puis, tu sais, aujourd'hui, ben, j'essaie des choses. Il y a des choses qui marchent. Il y en a d'autres qui marchent pas. Puis quand ça marche pas, ben, c'est pas grave, tu sais. La vie continue, là. Je vais être bien quand même. Puis ça marche pas, c'est pas dramatique, là. C'est pas obligé de toujours marcher à ma manière.
Yann, si tu veux parler, justement, tu dis que quand les choses marchent pas, j'essaie d'accepter. Tu sais, au niveau d'au quotidien, après 35 ans de sobriété, là, justement, rentrer le mode de vie dans ta vie, comment tu fais justement pour accepter, mettons comme là, bon, tu l'as parlé un peu de la COVID, mais accepter, ça veut dire quoi pour toi?
Ça veut dire ben les choses qu'il aime pas, je sais pas si c'est au travail ou ailleurs avec les personnes, c'est ne pas m'obstiner. Quand j'étais plus jeune, je pouvais être obstineux, essayer d'argumenter, gagner mon point. Aujourd'hui, si tu me demandes mon opinion, je vais dire mon opinion, je vais dire ce que j'en pense. Mais après ça, si tu ne crois pas, ben tu sais, j'y peux rien. Je sais que je change pas les autres non plus. Les autres se changent s'ils veulent bien changer. Puis des fois, ils veulent pas changer. Mais ça, j'y peux rien. Tu sais, j'accepte que je changerai pas les autres. Ça, j'ai compris ça il y a longtemps, tu sais, avec mes blondes. Mais tu sais, on change pas les autres. C'est pas vrai. T'sais, moi, les autres ne m'ont pas changé. C'est moi qui ai changé quand j'ai décidé de changer. Le jour où j'acceptais de changer, c'est moi qui, tu sais, mais les autres, ils m'ont pas changé. Puis c'est une perte de temps, je pense, d'essayer de changer les autres, tu sais. Accepter, parce qu'on n'a pas le choix. Je sais pas trop comment ça se fait, parce que des fois, juste, on n'a pas le choix. Dans le mouvement, dans mon cheminement, oui, ça n'a pas toujours marché à ma manière. J'ai perdu des jobs. J'ai eu des bouts, des fois, pas de job, où c'était plus difficile. Mais bon, ça s'est toujours arrangé quand même. Le reste, tu sais, parce que ma vie est relativement facile. Aujourd'hui, je travaille, bon, je paye mes factures facilement. C'est quoi le problème? Tu sais, il n'y a pas de vrai problème. C'est moi qui en crée des fois dans ma tête. C'est juste ça. C'est sûr ça. Accepter, ça se fait tranquillement, je sais pas, avec le temps. Je fais tout ça, peut-être un peu tout seul, mais bon, c'est à peu près ça.
Merci, Yann. C'était super intéressant de suivre ton rétablissement, suivre ton parcours dans l'Alcoolique Anonyme, un grand parcours de 35 ans. Moi, je suis heureuse de t'avoir entendu, puis je suis sûre qu'il y a plusieurs auditeurs aussi qui vont s'être identifiés, puis qu'ils vont être, tu sais, contents d'entendre ton message, un beau message d'espoir, puis comment vivre sans alcool, hein, pendant toute une grande partie de ta vie. Je remercie tous les participants à cette émission, donc Richard et René. Je remercie encore Yann, notre invité aujourd'hui, tous les auditeurs à l'émission, ainsi que l'équipe, les collaborateurs, radiodiffuseurs. Alors ici votre animatrice Isabelle, et je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.